On prend maintenant des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Alors, allons-y avec des organismes qui se regroupent sous un même toit pour assurer la vitalité de la francophonie. On en parle dans Franco-Presse, justement.
Oui, c'est une grande. C'est quelque chose de constant en francophonie minoritaire. Il y a souvent des projets de regroupement d'organismes qui sont en chantier. C'est actuellement le cas en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et au territoire du Nord-Ouest. Fait qu'on s'est intéressé à ce phénomène-là un peu. Est-ce que le résultat est positif ou négatif quand les organismes décident de se regrouper sous un même toit, là, pour ça peut être des raisons économiques, mais ça peut être aussi pour des raisons de collaboration plus facile. On a parlé à la chercheuse Anne Gilbert qui dit qu'une concentration de la francophonie, que ce soit par les organismes ou des services, bien, ça vient appuyer la vitalité de la langue. Ça peut aussi renforcer le sentiment d'appartenance si le centre est utilisé par le public. Parce que quand les services sont dispersés, ça peut réduire la visibilité de la francophonie, puis limiter donc l'engagement des membres de la francophonie. Madame Gilbert dit qu'elle a constaté ça à Edmonton et Calgary. Les francophones sont deux fois plus engagés dans leur communauté que ceux de Toronto qui n'ont pas beaucoup moins de services centralisés, qui sont un peu plus dispersés dans la ville. Il y a des limites à ça, par contre. Les projets dépendent beaucoup de financement du gouvernement. Fait qu'il y a un groupe à Toronto, justement, qui voulait créer une maison de la francophonie, puis qui étaient bien avancés dans leur projet. Il y avait des semi-promesses d'investissement du gouvernement, puis finalement, c'est tombé à l'eau parce qu'ils ont fini par perdre l'appui, puis les gouvernements se renvoyaient la balle. Il existe néanmoins des façons de garantir un certain succès. Il y a des exemples à Sudbury, puis Vancouver, où on a intégré les services de garderie ou de prématernelle dans les édifices, ce qui fait que ça donne un service qui a un roulement, qui rapporte un peu plus de revenus, puis qui donne une visibilité au centre. Puis il y a aussi ces deux centres-là, c'est des centres avec des salles de spectacle qu'on peut louer. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ouvrir les portes, il ne faut pas limiter ces locations-là aux francophones, il faut ouvrir les portes aux allophones et aux anglophones pour assurer une bonne rentabilité de ces lieux-là.
Par ailleurs, dans Acadie Nouvelle, on parle des producteurs de sirop d'érable du Nouveau-Brunswick qui doivent augmenter la cadence.
Oui, je me suis dit qu'on va parler de sirop d'érable, ça s'en vient bientôt. Puis le Nouveau-Brunswick, ce que on apprend dans le texte, entre autres, c'est que le Nouveau-Brunswick est le troisième producteur de sirop d'érable après le Québec et le Vermont. Tout ça a été dit lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick. Puis selon les données qu'ils ont présentées, la demande mondiale a augmenté de 6% en 2025. Puis le Nouveau-Brunswick, même s'ils sont troisième, ne représente que 3% de la part en sirop d'érable sur le marché mondial. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est ça qu'on dit qu'il y a de la place à la croissance aussi parce que on pourrait en profiter parce qu'il y a 250 producteurs de différentes tailles au Nouveau-Brunswick. Ce qui leur manque principalement, c'est un appui gouvernemental, mais pas nécessairement un appui financier. Ils pourraient avoir plus de terres de la couronne consacrées à la culture du sirop d'érable. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a 5% de ces terres-là qui appartiennent au gouvernement qui sont couvertes d'érable, mais qu'il y a seulement 0,65% qui sont occupées ou exploitées par les producteurs de sirop d'érable. Donc, il reste de la place pour agrandir le marché ou du moins l'exploitation. Puis les permis d'exploitation prennent beaucoup de temps à être délivrés, puis on souhaite que le gouvernement accélère ces processus-là.
Êtes-vous un amateur de sirop d'érable?
Qui ne l'est pas?
Je sais
C'est
pas.
délicieux.
Et un amateur de cabane à sucre?
Oui, quoi que ça fait longtemps que je suis
Oui, hein, quand on est petit, il me semble que quand on est enfant, c'est une tradition, puis ça se perd
allé.
un peu, mais il y en a qui ne manquent pas le rendez-vous annuel, là. Il y a des cabanes à sucre qui ouvrent en février, on dirait. Il y en a qui sont pressés, en tout cas. Mais il me semble que on fête bien le printemps, là. Aller à la cabane à sucre en mars, avril, c'est l'idéal en ce qui me concerne. Un voyage du ministre de l'Éducation qui fait sourciller des profs, c'est dans le droit.
Oui, le ministre de l'Éducation, Paul Calandra, s'est rendu au Royaume-Uni il y a quelques semaines. C'était pour participer à une conférence mondiale sur l'éducation, mais ce qui dérange surtout l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, c'est qu'il a visité l'école Michaela Community School, qui est une école à charte réputée comme étant la plus stricte de la Grande-Bretagne. L'association n'a pas d'objection à ce que le ministre voyage et aille chercher d'expertise ailleurs, mais ou qui participe à des conférences internationales, mais ce qu'on regrette, c'est qu'il consulte pas les gens qui sont sur le terrain en Ontario. Donc, on va chercher d'expertise ailleurs, mais on ignore celle qu'il y a ici, d'après eux. On se demande aussi si c'est une dépense justifiée, alors que le gouvernement dit vouloir ramener une saine gestion financière au sein des conseils scolaires. L'association est également inquiète que l'idée soit d'amener un peu plus de privatisation dans l'éducation, comme il y a dans d'autres pays. De son côté, le bureau du ministre défend vigoureusement la démarche. Il affirme que ce qu'il cherche, c'est des solutions pour que les élèves obtiennent des meilleurs résultats en Ontario, puis que les enseignants parlent souvent de civilité dans les écoles, donc un autre point sur lequel se concentrer. Mais le bureau du ministre précise qu'ils n'ont pas l'intention d'apporter des écoles à charte en Ontario. Je ne sais pas si j'ai besoin de préciser ce qu'est des écoles à charte, là, mais c'est dans le fond, c'est des écoles qui sont quand même financées par le public, mais qui ont une politique d'enseignement différente, qui doivent respecter le curriculum, mais qui sont un peu plus indépendantes du gouvernement pour leur gestion.
Merci de la précision. On reste dans le domaine de l'éducation. La moitié des enseignants manitobains victimes de violences et de harcèlement, c'est un vrai problème, ça.
Oui, puis c'est une conclusion à laquelle arrive une doctorante qui est aussi enseignante au Manitoba. Elle a fait un sondage auprès de 191 enseignantes et enseignants, puis 54% ont déclaré avoir été victimes de violences physiques ou verbales au cours de l'année 2023-2024, puis 47% ont dit avoir été victimes de harcèlement. La première source de ces violences et harcèlements-là, c'est souvent les enfants, mais on compte aussi les parents là, comme deuxième source importante. Les résultats ne surprennent pas le milieu de l'éducation là-bas, nous dit l'article de La Liberté, parce que c'est ce qu'on constate sur le terrain et dans d'autres recherches similaires qui ont été faites en Colombie-Britannique et en Ontario. Une des raisons évoquées, c'est l'augmentation du nombre d'élèves par classe, mais aussi l'augmentation des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, couplée avec la diminution du nombre de personnes qui peuvent offrir des services à ces élèves-là, ou du moins une stagnation qui fait qu'il y a plus d'élèves qui n'ont pas d'aide alors qu'il y en aurait besoin. Pour la doctorante qui a fait la recherche, ça explique aussi pourquoi il y a une pénurie d'enseignants un peu partout. La solution, c'est, mais ça fait, il y a la formation qui peut être utile, mais il y a aussi des suivis conséquents. Je donne l'exemple que des élèves qui font quelque chose de mal, ben, sont un peu réprimandés, peuvent être envoyés à la maison, mais reviennent à l'école le lendemain sans conséquence, là. Donc, on dit faut trouver une façon de faire comprendre de façon plus claire que c'est pas bien de faire
Non.
du harcèlement ou de la violence physique.
Tout le monde doit faire sa part et ça commence souvent à la maison. Une francophonie bien représentée mais sous-étudiée au Yukon, c'est dans l'aurore boréale et ce sera votre dernière nouvelle.
Oui, c'est un peu le cas partout parce que, bon, en francophonie minoritaire, on a toujours l'impression de devoir justifier notre existence, puis les services, puis l'argent qu'on demande et qu'on reçoit. Puis, au cours des dernières années, ça s'est fait beaucoup sous le signe des apports économiques. Puis au Yukon, il y a justement une étude qui a été faite récemment, fait qu'on a constaté en 2021 que même si la francophonie yukonaise représente 5% de la population, ils étaient derrière 6,1% des entreprises, donc ils sont un peu plus entrepreneurs, on va dire. On manque cependant de données. On ne sait pas de quel type d'entreprise il s'agit, de quel type de propriété. Donc, il manque beaucoup d'informations comme ça. Puis, il manque aussi le poids économique exact. Ça reste un mystère. Il y a le réseau de développement économique et d'employabilité du Canada qui a fait une recherche puis qui a déterminé que pour chaque dollar investi dans des entreprises que ce réseau-là aide, rapporte 6,60 dollars au PIB national. Mais au Yukon, les données qu'on a utilisées sont des données seulement des entreprises qui ont eu de l'aide de l'association franco-yukonaise à travers son programme d'aide aux entreprises. Donc, on sait quand même que ces entreprises-là apportent 5,1 millions de dollars et 60 emplois à l'économie du territoire. Mais pour les autres entreprises qui n'ont pas eu besoin d'aide, c'est un mystère.
Là-dessus, on se dit au revoir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, avec
Merci,
plaisir.
Julien.